Et je voudrais d'abord remercier le Seigneur parce que le Seigneur a fait des choses extraordinaires pour moi. Et c'est avec beaucoup de reconnaissance aussi et que je vais partager ces expériences avec le Seigneur et tous ceux qui vont écouter ce témoignage. Je voudrais dire que notre Dieu est un Dieu extraordinaire, un Dieu qui prépare tout. Un Dieu qui est vraiment, et j'ai pas le mot pour dire combien il est grand, combien il est bon, le Seigneur. Alors que j'habitais à Kirkpip, et mon mari venait travailler à l'escalier, et moi j'ai loué une maison qui était au-dessus de nos moyens. J'avais déjà 4 enfants qui étaient, les 4 étaient petits, je pouvais pas travailler. Et finalement, il y avait des problèmes et à la maison. Et j'ai prié, j'ai présenté mon problème au Seigneur. J'ai prié, je demandais à Dieu de m'aider. Enfin, et quand il va m'aider, je lui ai dit, Seigneur, si tu m'aides, eh bien, je vais pas travailler, je vais consacrer mon temps et pour te servir, pour travailler pour toi, pour gagner des âmes pour toi. Et un jour, j'ai fait un rêve. Je ne savais pas encore et c'était quoi ce rêve-là. J'ai rêvé que quelqu'un me disait, tu sais, tu dois aller à plein bois, parce que mes parents, les frères et les sœurs de mon papa, tout le monde habite à plein bois. Et dans mon rêve, quelqu'un est venu me dire, et va à plein bois, dis à tes tantes et à tes oncles et de sortir de l'église catholique, parce que je vais écraser cette église-là. Et je dis, c'est quoi ça, ce rêve-là? Et puis, le même soir même, j'ai rêvé encore que dans mon rêve, j'ai vu que tous mes oncles, mes tantes étaient dans l'église de Sainte-Hélène à Okoulé, à Kuepip, et tous mes tantes étaient là, et le prêtre était dans l'église et il faisait la messe. Et la personne me dit, et va, il me donne, la personne me donne questionnaire de l'école du sabbat, et la personne me conduit jusqu'à l'église et me dit, entre dans l'église, entre dans l'église. Je dis, mais non, le prêtre dit la messe là-bas. Et il me dit, non, je te donne le questionnaire de l'école du sabbat, va et faire et la leçon de l'école du sabbat avec tes tantes et tes oncles. J'étais en colère, je dis, mais c'est quoi ça? Mais j'ai quand même obéi et je suis rentrée dans l'église et là, j'ai commencé à faire l'école Shabbat. J'ai pris 2 bancs, mes parents sont tellement nombreux, mes tantes et mes oncles, 2 bancs de l'église et je me suis mis devant comme chez nous. Et là, finalement, et mes tantes et mes oncles faisaient comme ça. Ils m'écoutaient pas et ils regardent le prêtre. J'étais en colère, je sortais de l'église, je dis, tu vois? Tu m'as envoyé là-bas, mais il m'écoute pas. Il m'écoute pas. Il écoute le prêtre. Et la personne m'a touché encore une fois et m'a dit, j'ai pas vu le visage de la personne dans mon rêve. Je ne sais pas qui c'est. Mais j'ai bien entendu la voix. Elle me dit, non, je te dis d'aller parce que je vais écraser l'église et il doit pas rester là-bas. Va lui dire de sortir. Et j'étais en colère, mais quand même, j'ai obéi. Et je suis rentrée à l'église et j'ai commencé à parler. Elle dit, sortez de cette église-là, parce que le Seigneur a dit dans sa parole que cette église-là, c'est Babylone, ça va tomber. Sortez de cette église. Et dans mon rêve, j'ai sorti de l'église toujours en colère, parce qu'ils étaient toujours là, mais dans mon rêve, et on m'a montré que tous mes tantes, mes oncles, ma grand-mère, tous sont sortis avant que l'église s'écrase. Mais seulement, un oncle seulement n'est pas sorti de l'église. L'église s'est écrasée sur lui. Il n'est pas sorti, mais les autres ont sorti. Et en sortant de l'église, j'étais en colère dans mon rêve, j'étais en colère. C'était comme quelque chose que j'ai vécu de la... C'était vrai. Et finalement, je dis... C'était la première fois que Dieu me parle dans un rêve, parce que je ne savais pas que c'était Dieu qui me parlait. C'est après que je vais savoir. Et lorsque je suis sortie de l'église, je suis en train de marcher, et à ce moment-là, j'étais toujours en colère. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et les autres, j'attends toujours, mais personne n'est sorti. Alors, la personne m'a touchée. Et quand il m'a touchée, j'étais toujours en collège, retournée en arrière, et il a disparu. Et il a disparu. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que c'était un ange. Mais j'ai pas vu. Mais pour moi, j'ai senti que c'était un ange. Je dis, ah, j'ai parlé à un ange. C'est un ange qui est venu me parler. Et c'est alors que je me suis dit, ça vient sûrement de Dieu, ce rêve-là. Je ne sais pas comment ça va se réaliser, parce que mes parents n'aimaient pas les adventistes, mon papa même n'aimait pas les adventistes du tout, du tout, du tout. Et j'étais vraiment troublée par ce rêve-là. Et finalement, j'ai rêvé encore la nuit suivante, j'ai vu dans mon rêve une clé. Une clé. Quelqu'un fait comme ça avec une clé devant moi. Et me dit, voici cette clé. C'est une maison. C'est une maison. C'est la clé d'une maison. Et tu iras là-bas. Tu iras là-bas. Et le Seigneur va te conduire. Et j'ai rêvé le soir, le matin. Et je ne savais pas toujours, hein, c'était quoi ça, parce que c'est la première fois que je fais cette expérience-là. Mon mari est parti travailler, tous les jours il retourne à la maison, il se plaint. Là-bas, ils m'ont dit, je viens en retard tous les jours, et étant donné que c'est la propriété, il faut prendre le travail très tôt, et lui, il arrive trop tard au travail, et il se plaint. Et à chaque fois qu'il se plaint, je dis, Seigneur, et je prie pour lui, parce qu'il venait de se convertir, il était catholique lui, et il venait de se convertir, il était découragé comme tout, il travaillait aussi le sabbat, il travaillait aussi le sabbat, et même s'il était baptisé, il travaillait le sabbat, et pour pouvoir joindre le deux bouts d'après lui. Alors je dis Seigneur, et je lui ai dit, l'argent du sabbat, je ne vais pas prendre, même s'il faut que je reste sans manger avec mes enfants. Mais je sais que le Seigneur pourvoira. Mais je ne vais pas prendre. Regarde ce que tu veux faire avec ton argent pour le sabbat. Ça, je ne vais pas prendre cet argent-là. Je ne vais pas prendre. Et le lendemain, je dis, Seigneur, je ne sais pas c'est quoi cette clé-là. Mais dans ma prière, je dis, Seigneur, mais si tu me donnes une maison que je peux payer. Vraiment, n'est pas au-dessus de mes moyens, mais que je vais payer. Je te garantis que je vais cesser de travailler. Je vais m'occuper de mes enfants et aussi de ton œuvre. Et le soir, mon mari est entré avec une clé et il m'a dit, je ne sais pas si tu vas accepter ça, mais mon ami m'a donné une clé parce qu'il a vu que tous les jours, et mon patron crie après moi par rapport à ce que je rentre au travail tard. Et il m'a donné une clé parce qu'il y a une maison, c'est dans une cité. Quand mon papa a entendu ça, parce qu'on était dans la cour avec mon papa, il m'a dit, moi j'ai travaillé sur la propriété pendant 50, 45 ans, 50 ans. La propriété m'a donné la maison là-bas, gratuit. J'ai jamais voulu élever mes enfants dans des cités. Et toi, tu vas prendre tes quatre enfants, tu vas apporter là-bas. Il m'a dit, il a pleuré mon papa, hein. Mes sœurs m'ont dit que tes enfants vont devenir des femmes et des hommes, femmes de cité, des hommes de la cité. Et quand on parle de ça, autrefois, c'était des personnes dégradées. Et j'ai pleuré aussi. Je pleurais, j'ai prié. Je dis, Seigneur, je ne connais pas la maison, je ne suis jamais venu ici, je ne sais pas où c'est, je ne sais rien. Mais puisque j'ai rêvé, j'ai prié et tu m'as donné cette clé, tu m'accompagnes, je vais aller voir. Et mon mari n'est pas venu avec moi. J'ai pris mon petit frère et ma fille qui était petite à ce moment-là, j'ai pris mon petit frère, je suis venue ici demander et je suis venue ici. Et là, j'ai vu la maison, c'était en tôle. La maison, il y avait des hôtels partout dans la maison, dans la cour, parce qu'il y avait un sorcier qui habitait là. C'est pourquoi il a dû quitter la cour et partir parce que les gens et les gens, c'était une dame, ça. Les gens l'ont frappée, cassé ses dents, et elle a dû partir, elle a failli mourir ici. Elle est partie. Et finalement, je suis venue, je dis, Seigneur, si c'est toi qui m'envoies, tu marches devant. Tu marches devant, c'est toi qui as plané mon sentier. Et moi, je vais continuer derrière toi. Et les gens me regardaient, je ne savais pas pourquoi les gens d'ici me regardaient comme ça. Parce qu'ils ne pouvaient pas toucher rien dans la cour ici. Ils tombaient malades, ils mouraient. Ils avaient peur de tout ça. Voilà, elle est là, elle peut témoigner. Elle peut témoigner. Et je dis, lorsque j'entre dans la cour, je ne sais pas, j'ai vu des hôtels partout. Et à ce moment-là, et en entrant à la maison, je dis à mon papa, j'ai visité la cour est comme ça. Mon papa a voulu venir pour voir. Et lorsqu'il est venu, il dit, ma fille, ça c'est un sorcier de vraiment très très grand sorcier, ça. La cour est partout. Elle est remplie d'hôtels. Et il a vraiment des esprits partout. Tu peux pas venir habiter ici. Mais je sentais que dans mon cœur, c'est Dieu qui me dirigeait. Alors, en entrant à la maison, j'ai prié. Je dis, Seigneur, si c'est toi qui m'envoies, je vais faire comme Abraham. Je vais faire comme Abraham. Je vais t'écouter. Je vais tout quitter. Ma famille, tout. Je vais partir. Mais étant donné que j'ai pas le moyen aussi de payer le camion qui devait prendre toutes mes affaires pour venir ici, ça coûte une fortune pour venir ici. Je dis, Seigneur, c'est la seule chose que je vais te demander. Si c'est toi qui m'envoies là-bas, aide-moi à trouver le moyen à venir ici. Et ma voisine était une musulmane. Et souvent, je partageais la parole de Dieu avec elle. En fait, j'ai travaillé aussi chez elle un petit peu. J'ai fait des trucs chez elle. Elle m'aide un petit peu pour mon foyer. Alors, le sabbat, jamais je vais chez elle. Mais quand je vais chez elle, je partage. Alors, elle me dit, tu sais, moi, je suis musulmane, mais je crois en Jésus. Je sais que Jésus est vraiment merveilleux. Et je lui ai raconté mes rêves. Je lui ai dit, maintenant, j'ai demandé à Jésus de me guider. Il me dit, mais pas de problème, Marie-Claude. Mon mari a deux camions. Son mari s'appelle Rafik. Et il me dit, je vais parler à Rafik et je vais lui dire, si Jésus est vraiment vivant, comme tu le dis, eh bien, il va toucher le cœur de Rafik et Rafik va te donner ces deux camions pour apporter toutes tes affaires à l'escalier. Et comme il a parlé à Rafik, Rafik a dit, Marie-Claude, c'est ça un problème, ça? Il me dit, je veux te donner deux camions pour apporter tes affaires ici. Et là, c'est vrai, je suis venue ici. Et lorsque je suis venue ici, et la personne, et elle a voulu savoir quelle est la personne qui est venue prendre sa maison. Elle est venue parce qu'il fallait faire des papiers et tout ça. Et croyez-moi, mes amis, quand Dieu fait quelque chose, c'est vraiment extraordinaire. La cour que vous voyez là, grande comme ça, mes trois fils habitent là, hein. Deux sont devant, un autre en haut, et moi je suis au bas. Et finalement, la dame m'a dit, je vends tout pour 1500 roupies. Pour 1500 roupies, je vends tout. Et elle ne savait pas si j'étais adventiste. Elle croyait que je suis catholique. Alors elle a fini de signer, elle a fini de faire tout sur le papier. Et après, au moins 2 semaines après, elle est venue avec un autre sorcière. Ici on appelle ça longanis. Hein? Ici on appelle ça longanis, traiteur. Elle est venue avec, je vais pas prendre le mot traiteur parce qu'en français, traiteur signifie autre chose. Hein, autre chose, alors je vais pas prendre ce mot-là, et elle est venue et avec deux dames là, hein, l'autre habite au fond là, et elle est venue avec elle, avec de la boisson alcoolisée, et elle est venue un soir, et elle m'a dit, tu sais, et on va prendre un petit quelque chose là, avec, je lui dis non, je ne bois pas, et votre mari, non, mon mari aussi ne boit pas. Et à ce moment-là, elle dit, mais vous me permettez, hein, donne-moi deux verres, là, nous, on va boire. Je dis, non, je suis adventiste. Même mes vers sont consacrés à l'Éternel, que je ne peux pas vous offrir pour prendre la boisson alcoolisée. Ils étaient choqués. Elle insiste. Je lui dis non. Ramassez, s'il vous plaît, ramassez votre bouteille, parce que même la table que vous posez, ça est consacré à mon Dieu. Parce que c'est là que... Parce que c'était en tôle, et j'avais pas construit encore, c'était en tôle, et devant, c'était mon salon. Je dis, ramassez votre bouteille, s'il vous plaît. Et la dame était en colère. Mais elle peut rien faire, elle peut pas me dire, sortir de la maison. Elle peut pas me dire, parce qu'elle a fini de signer. Elle peut pas me dire, sortir de la maison. Mais elle était en colère comme tout. Elle me dit, voilà, je t'avertis, tu as 4 enfants, tes enfants sont petits. Eh bien, si tu vas pas soigner tous les esprits qui sont dans la cour, eh bien, tu vas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et tu auras beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Je dis, je sais que les problèmes sont là, mais mon Dieu va s'en charger. Mon Dieu va s'en charger de tous les problèmes qui vont surgir. Je ne sais pas quels sont les problèmes qui vont venir, mais je sais que mon Seigneur va s'en charger. Et elles sont parties, et un matin de sabbat, et tout le monde ici, même ma voisine, avait peur de nous parce que nous sommes adventistes. Tout le monde, vrai pas vrai, ma tante Madeleine, tout le monde avait peur de nous. On a empêché les enfants de fréquenter nos enfants. Et même un jour, quelqu'un a frappé mon fils Lorenzo, et qui était à l'église hier. Il a frappé. Et parce que, il nous appelait Alléluia. Et on fait plusieurs trucs. Il se moquait de mes enfants. Il se moquait de nous. Tout le monde ici. Ils croyaient que nous étions nous aussi des personnes bizarres ou quelque chose comme ça. Et ces deux personnes-là sont partis là, très en colère, et le soir même, vu qu'on habite tout près du cimetière, et le soir même, ils ont commencé à invoquer. Et moi, quand ils sont sortis, j'ai les enfants, c'était déjà l'heure de la prière, on a prié déjà, ils sont partis, et je dis, les enfants, et descendez du lit, on va prier. Les enfants m'ont dit, maman, on a fini de prier. Je dis, non, je sens qu'il faut prier encore, et demander à ce que Dieu envoie ses anges camper autour de nous pour nous protéger. Et les enfants sont descendus du lit et ensemble, et avec mon mari, on a prié. Et pendant qu'on priait, eux là-bas, ils sont partis au cimetière. Une dame a vu qu'elles étaient là-bas, nues dans le cimetière, commençaient à invoquer des démons. Et finalement, quand ils sont rentrés dans la maison là-bas, tout au bout, et quand ils sont rentrés là-bas, et ils ont commencé à invoquer. Le mari de la femme sorcière, elle était tellement colère parce que pendant toute une nuit, il faisait du bruit, il invoquait le diable, il faisait toutes sortes de trucs. Ils étaient tellement colère contre l'autre dame propriétaire de la maison là. Ils étaient tellement colère contre cette dame-là et contre sa femme qui était sorcière aussi. Et il a bu et il a commencé à la frapper, à dire, vous m'empêchez de dormir, vous faisiez du bruit, et il commençait à frapper. La dame est partie nue chez là dans la maison, et elle est allée chez une autre dame. Elle est encore vivante, la dame là, elle est partie chez une autre dame, et la dame était tellement effrayée parce que la sorcière lui a dit qu'elle va me faire payer pour avoir et faire partir ces démons dans la cour ici. Et elle va me faire payer. Et la dame a eu tellement peur pour moi et mes enfants. Elle ne me connaissait pas. Elle m'attendait. Elle a demandé aux gens, elle a parlé ça dans son quartier là-haut. Et les gens disent, la dame va à l'église adventiste. Il n'y avait pas encore d'église à ce moment-là. On priait dans une petite maison. Et elle a dit, la dame, le matin avec ses enfants, mon mari partait travailler, lui, il travaillait le sabbat. Et on a dit à la dame part à l'église très tôt le matin. Et la dame est venue avec sa brosse à dents. Je ne vais jamais oublier ça. Elle est venue avec sa brosse à dents, elle m'attendait. Elle m'a dit, madame, Et faites attention. C'est elle qui m'a raconté, parce que moi, je ne savais pas, moi. C'est elle qui m'a raconté tout ce qui s'est passé pendant la nuit et tout ça. Je lui ai dit, j'ai pas peur, parce que mon Dieu est vivant. Mon Dieu est tout-puissant. J'ai pas peur. Et je suis passée à l'église tranquille, tranquille, parce que j'étais sûre que Dieu m'a envoyée ici. Et je suis sûre qu'il va veiller sur moi. Je suis partie à l'église. Et après plusieurs, je vais aller un petit peu vite pour ne pas rentrer dans tous les détails. Et elle a essayé de faire toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Et finalement, c'est ma voisine qui a été tourmentée par les mauvais esprits. Et finalement, elle est venue chez moi. Et elle m'a raconté. Et on a commencé à prier ensemble. Et elle qui était catholique, elle ne sait pas lire. Mais par rapport à ce que Dieu a fait aussi pour elle, a délivré de tous ces tourments-là. Et finalement, elle a pu comprendre que notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. On n'a pas besoin des images pour veiller sur nous. On n'a pas besoin de tout ça. Le Seigneur est vivant au milieu de nous. Il nous a protégés de tout ça. Et un jour, la dame est venue. Après au moins 2 ans, elle est venue. Et quand elle a commencé à invoquer, je ne savais pas, moi, elle est venue. Elle était là dans la maison et je lui parlais. Elle regardait, tous les autels sont partis. Dans la maison aussi, il y avait beaucoup de sec, beaucoup de trucs. Et j'ai passé de la peinture au bas, partout. Et finalement, elle est sortie. Elle est sortie dehors. Elle a regardé la cour partout. Elle a pleuré. Et elle a dit un gros mot et elle est partie jusqu'à où ça fait 30 ans que je ne l'ai pas revue. Elle est partie. Et la dame qui était avec elle, l'autre sorcière qui travaillait avec elle, aujourd'hui elle n'est plus là, elle est dans la prison et qui est venue ici. J'ai amené Pasteur Patrice à l'aide qui travaillait à l'escalier. C'est avec lui que je commençais à travailler, à faire le travail missionnaire. Premier travail missionnaire, c'est avec Pasteur Patrice Allais. Il est venu avec sa petite voiture et je lui ai dit, je vais vous amener là-bas. La première maison qui reçoit la visite d'un pasteur adventiste, c'était là-bas. Les gens observaient, regardaient. Je l'ai amené et la sorcière est entrée sous le lit. Elle est entrée sous le lit ce jour-là. Et je ne sais pas, je sais pas. Je dis je ne sais pas parce que ça vient pas de moi. Mais le Seigneur me donne quelquefois, et on appelle ça en créole toupé. Hein? Et je ne sais pas, je peux rentrer dans la maison d'une personne avec une assurance. Et je dis, mais où est ta maman? Elle me dit, elle est de l'autre côté. Et j'entre là-bas et je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Sortez! Sortez, le pasteur est venu, va prier pour vous et votre famille. Sortez. Elle est sortie toute tremblante, mais elle ne peut pas, elle n'a pas pu rester dans la présence du pasteur Allais. Mais les enfants sont restés, le pasteur a prié. Tous les enfants de cette femme sont venus à l'église. Sont venus à l'église. Ils connaissent notre Dieu. Il y en a même qui étaient prêts à se faire baptiser. Et par rapport à certaines pratiques du monde, ils ont cessé. Mais les enfants sont aventuriers et tout. Cette personne-là, c'est la première maison où j'ai commencé à faire le travail missionnaire. Et on est des bons amis. Maintenant qu'elle est en prison parce qu'elle est condamnée pour un crime qu'elle a commis, et ça fait longtemps qu'elle est en prison, et je pars même le visiter là-bas. Je prie avec elle. Et quand elle est venue, une fois elle est sortie de la prison, elle est venue, je l'ai amenée à l'église. Je l'ai amenée à l'église. Elle est venue à l'église une fois et je lui ai dit, et quand vous sortez, venez, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Et c'est comme ça qu'on a pu faire des expériences avec le Seigneur. Et quand on était seul, cette famille-là n'est pas convertie, mais tout le monde connaît Jésus, mais ma voisine. Elle a pu connaître Jésus, elle aussi. Elle est venue, j'avais tous les jours chez moi, et de 9 h à 10 h, des moments de prière. Alors j'invitais tout le monde. Je dis, vous êtes malade? Venez. Venez. Vous avez des problèmes? Venez. Votre mari n'a pas de travail? Venez. on va prier ensemble. J'ai invité. Alors, l'autre dit à l'autre, et je suis allée là-bas à la prière, le Seigneur m'a exaucé, mon mari a eu un travail. L'autre dit, j'allais me faire opérer parce que j'avais des trucs dans le ventre, et le Seigneur m'a guéri. C'est comme ça qu'on était vraiment au moins 10, 12, 15 personnes. Le Seigneur a ajouté chaque jour. Et c'est comme ça que ma voisine s'est convertie. Et devant moi, on a aussi trois adventistes encore. De l'autre côté, là-bas, je vous ai amené hier. Et on a dû compter sur les doigts combien de personnes s'est converties. Dans l'autre côté aussi. Et c'est comme ça que j'ai eu aussi mes trois belles filles. Lorsqu'il y a des sessions de prière chez moi, les filles venaient, mes garçons voient les filles venir chez moi, commencer à se faire des amis et commencer à s'intéresser à ces filles-là. Je dis non, parce que ces filles-là ne sont pas, j'ai une belle fille qui est sortie de l'église catholique, deux de pentecôtistes. Et ils fréquentaient les réunions de prière chez moi. Et c'est comme ça que tous sont venus à l'église. Et pour la gloire de Dieu, je dis que le Seigneur m'a béni énormément, énormément. Et mon mari a cessé de travailler le sabbat. Il a compris que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vraiment est vivant. Il a cessé de travailler le sabbat et nous n'avons jamais manqué de quoi que ce soit. Et le Seigneur continue à nous bénir. Et je sais qu'il y a des âmes encore ici qui attendent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts déjà pour le baptême, mais pour des raisons de sabbat, d'alcool, comme Moyou. Il est prêt, hein? S'il délaisse l'alcool, on peut le baptiser tout de suite, parce que ça fait des années qu'on travaille avec lui. Et dans la cour aussi, les enfants, c'est une grande famille, hein? Et tout le monde aussi. Et on a travaillé ensemble. Et le Seigneur ne cesse de bénir ce quartier. Et tout le monde nous respecte, nous aime. On n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. Tout le monde. Et quand il y a un problème avec les enfants, les personnes viennent me voir, me disent, envoie vos enfants, vos garçons, parlez à mon fils. Parlez à mon fils. Regardez vos enfants. Je le dis très humblement et parce que c'est Dieu qui l'a fait, c'est pas nous. Alors que mes sœurs, mon papa me disait que mes enfants vont devenir des hommes et des femmes aidées, femmes de cité. Mais le Seigneur a béni. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas que mes enfants deviennent, parce que c'était terrible ici, hein. Même jusqu'à maintenant, il y a de la drogue, il y a plusieurs. Mais je dis, Seigneur, je dépose mes enfants à tes pieds. Et chaque jour, je le fais, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, dès le matin, le soir, je dis, Seigneur, je dépose ma famille à tes pieds. Prends soin. Je dis au Saint-Esprit, conduis mes fils sur leur lieu de travail, mes belles-filles, ma famille, pour que nous soyons des flambeaux là où tu nous as placés. Parce que si le diable ternit l'image de cette famille, si nous permettons au diable de faire quelque chose dans nos cœurs, dans nos témoignages, eh bien, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Alors je dis, Seigneur, chaque jour, je te confie ma famille. Prends soin. Prends soin. Que ton esprit détourne nos cœurs, nos pensées, des choses mauvaises, afin que ton nom soit glorifié dans ce quartier. Et je ne sais pas encore ce que le Seigneur va faire, mais je sais qu'il y a encore des grandes choses pour ce quartier. Quand on fait des conférences deux fois, trois fois, pour les jeunes, pour toute la famille. Arnaud, le pasteur, il vient de terminer une série de conférences, c'était rempli, rempli. 108 personnes étaient présentes pendant ces conférences-là. Et c'était rempli, c'était une grande bénédiction. Le Seigneur ne cesse de bénir ce quartier, en répandant ses paroles partout, partout.
Vous avez mis les chaises là.
Les chaises, on a mis une tente là, et une salle verte, et c'était rempli. On a pris aussi chez nos voisins, on a demandé là, chez ma voisine, de nous céder aussi la moitié de... Hein, on a dressé les tentes là, et dans la rue, c'était rempli, rempli, rempli. Tous les jours, tous les jours. Même s'il pleuvait, les gens venaient. Les gens venaient. Le Seigneur attire les gens pour écouter la parole de Dieu. Et c'est vraiment extraordinaire de voir comment Dieu m'a conduit, moi et ma famille, ici, et comment il nous dirige et il nous conduit encore. Et c'est pourquoi je dis toujours, et la gloire, c'est à lui. Et je raconte pas ça partout parce que quelquefois de peur afin de pour que les gens ne pensent pas que et je veux comme si me mettre en avant et de passer pour un saint ou quelque chose comme ça. Mais c'est difficile parfois de fermer la bouche, de ne pas dire les choses que Dieu a accomplies. Parmi tant d'autres, là j'ai choisi seulement la base. Mais il y a des pendant ces 30 ans là. C'est vraiment des choses. Quand mon fils est tombé malade hier, je n'ai pas voulu vous raconter ça pour prendre votre temps, mais Daniel, hier, il était là, il a dit, raconte à pasteur le miracle que Jésus a fait pour moi. Il était petit, il avait peut-être 3 ans. Un sabbat, on est parti à l'église, et la famille Souben, ses deux sœurs étaient à Maurice, et le neveu de Kentish était petit encore, Marc. Il est presque même âge avec Daniel. Je pense qu'il est plus grand que Daniel. Et Daniel est tombé malade dans l'église même. Il avait la fièvre. Il est tombé malade à l'église. Et les sœurs de Kentish m'ont dit, cet enfant-là est malade. Et je te donne un médicament, suppositoire. Tu vas mettre avec cet enfant et puis tu vas pour tout de suite voir un médecin. On est parti à Kuepip. Et voir le médecin. Et les gens d'ici, lorsqu'ils vont voir ça, ils disent, voilà, ce qu'on disait est arrivé. L'enfant est attaqué par le diable. Et moi, j'ai pas voulu écouter. On a prié. Et je suis partie à Kuepip. Et en allant voir un médecin, le médecin m'a dit, madame, votre enfant est déjà mort. Cliniquement, il est déclaré mort. Il était raide. Il me dit, vous habitez à l'escalier, mais vous ne pouvez pas aller à l'escalier, ni à l'hôpital, vous n'aurez pas le temps, parce que l'enfant va rendre l'âme dans quelques minutes. Est-ce que vous avez un parent? Et à Kuepip, je dis oui, ma maman. Il me dit, mais allez chez votre maman, et puis après, revenez, et moi je vais vous faire l'acte de décès. Parce que je suis partie chez ma maman, et ça, j'ai les larmes aux yeux quand je raconte ça, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire. Et là, on a commencé à prier, on a commencé à demander au Seigneur, et mes enfants ont pleuré, et mon papa a pris Daniel dans ses bras, il était tout droit comme ça. Et ma belle-fille, sa maman habite tout près. Elle est partie dire à sa maman que ma belle-sœur est venue avec un enfant mort à la maison. Et la maman a dit, mais je vais me dépêcher de préparer le repas et de faire tout. Et puis le soir, je vais venir pour la veillée mortuaire. Et nous, on a prié. Mon papa a tenu Daniel dans ses bras. Et mon papa n'était pas encore adventiste. Il ne croyait pas à ce Dieu-là. Il était en colère contre nous. C'est pas quelle sorte de Dieu vous priez. C'est pas quoi. Et nous, on a prié. On a prié. Je priais. Je peux pas lire. Je pouvais pas lire la Bible. Je demandais à mes enfants. Marjorie, ma fille qui était petite, ma fille aînée, elle savait pas trop lire. Je lui ai dit, prends la Bible. Prends la Bible, prie, demande Dieu, prie. Et tous commencent à pleurer. Et ma fille tenait sa Bible comme ça dans sa main. Mon papa prenait Daniel dans ses bras qui était tout comme ça. Et mon papa pleurait et dit, mon enfant part, mon enfant part, mon enfant part. Et lorsqu'il disait ça, nous on pleurait, on criait. Et finalement, je vois et mon papa qui commençait à être trempé, Daniel. Il faisait pipi sur lui. Et puis, je vois sa main faire comme ça. Sa main fait comme ça. Et lorsque son pied fait comme ça, la Bible sortait de ma main, tombée. Et je vois Daniel sortir de la main de mon papa et se met debout comme ça. Je dis, Seigneur, tu es grand. Tu es grand. Et Daniel commençait tout de suite à courir dans la maison. Et lorsque la belle-mère de ma belle-sœur est venue pour assister à la veillée mortuaire avec toute la famille, elle était en colère. Elle croyait qu'on a menti, que sa fille lui a menti. Elle a laissé toutes ces choses pour venir ici. Et c'est ça, même cet enfant-là, ça, qui était mort. Et elle voyait Daniel courir dans la maison, partout, partout. Le Seigneur a rendu la vie à mon fils. Et je dis, Seigneur, tu es grand, tu es grand. Et on est retourné chez le médecin. Et on lui a dit, vous n'avez pas besoin de signer et quoi que ce soit, mais on n'a pas emporté Daniel. Et on est retourné, on lui a dit, mon fils, vis. Alors il nous a conseillé à ce moment-là d'aller mettre des glaçons sur son corps, partout, partout. Ce jour-là, on n'a pas eu des glaçons, on a acheté des sorbets. On a mis sur lui partout parce que le médecin dit, parce qu'il est resté comme ça depuis trop longtemps. Alors il faut, comme si, je ne sais pas pourquoi, mais il nous a dit de faire ça, on a fait. On l'a fait. Et finalement, mon fils est vivant. Et à chaque fois que je lui raconte ça, c'est pourquoi hier devant vous, je lui ai dit, et jamais tu oublies ce que Dieu a fait pour toi. Dieu a un plan pour toi. C'est pourquoi il t'a rendu la vie. Il a t'a rendu la vie. Et ça encore m'a fortifié dans ma relation avec le Seigneur. Parce que je sais que le Seigneur est vivant, qu'il m'accompagne. Et pendant toute ma vie, tous les problèmes, toutes les difficultés que je puis avoir, je me suis tournée vers le Seigneur. Je lui dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Parce que tu m'as dirigé tout le temps. Tout le temps, tu m'as dirigé. Et je sais que tu vas faire encore pour moi. Tu vas me diriger encore. Il y a eu beaucoup de problèmes et de difficultés dans ma vie. Mais le Seigneur me fait toujours avancer. Me fait toujours avancer. Sur le moment, je n'arrive pas à comprendre. Mais par la suite, j'arrive à comprendre et je loue le Seigneur, je le bénis. Pour mes fils, pour ma fille, pour leur mariage. J'ai aussi fait des expériences extraordinaires. J'ai toujours demandé à Dieu, d'abord, Seigneur, est-ce ta volonté que je m'implique dans ce mariage-là? J'ai fait une erreur, une fois, pour mon fils et aîné, Lorenzo. Et j'ai fait moitié-moitié, l'autre fille était catholique, et j'ai dit, oui, on va, et tu dois te marier à Adventiste, et finalement, elle a pris des études, elle s'est baptisée et tout, mais elle n'était pas convertie. Et j'ai pas fait un bon travail, c'était pas un bon témoignage. J'ai accepté que la moitié se fait à Adventiste, à l'église, et puis la noce, la moitié se fait mondaine. Mondaine, et ça s'est terminé par un divorce. C'était pas béni par Dieu. Ça, c'est l'erreur que moi, j'ai manqué de confiance au Seigneur. Ça aurait dû, c'était pas un mariage voulu par Dieu. Mais j'ai pas assez prié pour demander la direction. J'ai pris sur moi. Mais ça, j'ai reçu la leçon. Et les autres, j'ai pas agi comme ça. J'ai demandé aussi longtemps que Dieu ne répond pas. Je me suis pas lancée dans ce mariage-là. Et c'est pourquoi tous les trois garçons, tous les trois fils, j'ai fait des expériences bénies, même avec ma fille aussi. Ma fille, elle est mariée avec une famille adventiste, mais les trois, et j'ai demandé au Seigneur. Mais pour ne pas prendre tout le temps, je vais raconter que pour Daniel. Pour Daniel, et là-bas c'était Pentecôtiste, le papa catholique, il voulait faire un mariage moitié-moitié. Moitié adventiste, moitié catholique, c'est-à-dire catholique que pour la noce, là, hein, la danse et la boisson, etc. J'ai insisté, j'ai dit non, non, c'est pas notre principe. Et en allant là-bas, et j'étais pas d'accord pour ça, hein, j'étais pas d'accord, j'ai combattu ça depuis le début. Et finalement, la famille n'était pas vraiment contente de la façon dont j'ai agi, parce que mon fils allait dire, je ne peux pas aller de l'avant parce que ma maman n'aime pas. Ma maman ne veut pas. Et les gens disent, oui, ben, je suis fière parce que nous, on est des personnes, des créoles, et c'est à cause de ça. Et chez nous, on a des trucs comme ça. Et j'ai appris. Alors, je suis partie là-bas. Je lui ai dit, je n'ai rien contre la famille. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je n'ai rien contre la famille, ni contre vos cheveux, ni contre quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que j'ai porté ma Bible avec moi. Je dis le problème, c'est que votre religion, la pratique, votre pratique religieuse. Et ce que m'enseigne la Bible, je ne dis pas mon église ni adventiste, je dis mais ce que m'enseigne la Bible n'est pas en rapport avec ce que vous pratiquez. Je ne peux pas aller de l'avant par rapport à ça. Mais si vous acceptez, je viendrai chaque jour ou chaque semaine pour partager ce que la Bible nous dit concernant le mariage, concernant notre relation avec lui, ce que nous, nous croyons en tant qu'adventistes. Si vous voulez, je viendrai, je vous enseignerai, ensemble on va prier. Et après quoi, si vous êtes d'accord, on va débuter par le fiançailles. Ce sera comme Dieu le veut. Et ils ont accepté. Et c'est comme ça, hier, je vous ai amené là-bas. Ce petit bout-là que vous voyez était rempli. Vous avez vu, les filles étaient debout dans les couloirs. C'était comme ça qu'on priait. C'était comme ça, parce que la maison est petite. Alors, les autres se mettent debout et ils écoutaient. Ils écoutaient la parole de Dieu. Et c'est comme ça que toute la famille s'est convertie. Sortant de là, seulement reste le papa. Hier, vous avez prié pour le papa. Je suis convaincue. Et le papa ne voulait pas venir conduire Daniel, sa fille. Lorsque dimanche, on faisait la répétition à l'église, on a vu le papa venir. Il a dit, et comment est-ce qu'on fait ça à l'église adventiste, hein, pour conduire sa fille à l'hôtel? Où est l'hôtel? Il avait bu. Et finalement, il a fait la répétition avec le pasteur. Et le jour du mariage aussi, il a dit, non, pas question. Parce que je ne peux pas recevoir ma famille, mes amis. C'est le premier mariage que j'ai fait. Je ne peux pas. Non, pas question pour moi de m'associer à ce mariage. C'est là qu'on s'est trouvé dans des difficultés par rapport à mon budget pour le mariage. J'avais fait un dîner. Je n'avais pas invité beaucoup de personnes, mais il y avait beaucoup de pasteurs. Parce que j'ai beaucoup d'amis de pasteurs. On avait invité beaucoup de pasteurs. Et parce que j'ai voulu que beaucoup d'adventistes, pour avoir beaucoup plus d'influence sur les autres qui sont là. Et finalement, il est venu conduire sa fille. Il n'a pas porté de la boisson. Il n'a rien porté. Et il est venu bien à jeun. Et tout le monde est resté à jeun. Et pour le mariage. Mais c'est là où j'ai eu un problème. J'ai manqué de l'argent parce que, et quand j'ai voulu faire, comme elle a dit, mais moi, après le mariage, je vais recevoir, et je vais prendre mon argent, je vais faire la réception chez moi. Je lui dis, ça, c'est votre affaire. Mais les mariés vont rester chez moi. Ils vont pas venir là-bas, dans la fête là-bas. Eux, ils vont rester chez moi. Je suis un petit peu autoritaire. Je suis un petit peu exigeant quand il s'agit des choses de mon Dieu. Là, je vais être comme ça. Je vais être comme ça. On m'appelle Bourrique, Anne, parce que quand je mets la tête devant, si le Seigneur m'a dit de faire quelque chose, je vais aller là. Personne ne va pas me dissuader pour ça. Je dis, la mariée va rester là, mais vous faites ce que vous voulez chez vous, vous avez le droit. Mais les mariés vont rester là, après la noce, vont rester ici. Elle était en colère, mais... Et finalement, j'ai manqué de l'argent, parce que le 5000 roupies, le repas, et Briani, et coûtait 10 000 roupies. Alors, j'ai fini de payer 5 000 roupies. Le 5 000 roupies, il manquait. Il me manquait 5 000 roupies et c'était pas dans mon budget. C'était pas dans mon budget. J'ai plus d'argent. Et finalement, restait quelques semaines pour le mariage. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? J'aime pas emprunter de l'argent, moi. J'aime pas faire ça. Je dis, Seigneur, je mets devant toi les choses. C'est toi qui pourvois mon besoin. Je n'aime pas emprunter de l'argent. Et je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et finalement, pasteur Daniel Lachoman était président de la fédération. Il faisait ce jour-là une session de prière un sabbat matin. Une session de prière et à l'église de Phoenix. C'était dans la petite chapelle à Laurière, c'était pas dans l'église, c'était dans la petite chapelle à Laurière. Et il a invité tous les anciens et tous les responsables. Et ce jour-là, il pleuvait beaucoup. Je me suis réveillée avec mes soucis, je dis, aïe, je vais pas y aller. Parce qu'il pleut. Je dis, à l'escalier même, il pleut, mais là-bas encore, c'est pire, il faut marcher beaucoup pour aller. Je dis, non, j'irai pas. Et finalement, 7h moins 20. Généralement, quand je pars à Phoenix, je me lève, je me réveille tôt. Et 7h moins 20, je suis déjà dans le bus. Moi, parce que j'aime pas être en retard. Je suis déjà dans le bus. Et ce jour-là, j'étais encore à la maison. J'étais encore à la maison. Je me suis dit, mais je sens que quelque chose me presse. Je dis non. Je vais pas avoir peur de la pluie. J'irai. Et vite, vite, et le Seigneur planifiait aussi tout. J'ai eu le bus vite. Je suis rentrée là-bas à l'heure. Et finalement, et je me souviens que de ça. Je ne sais pas encore ce que le pasteur a dit, mais seulement ces mots. Le pasteur a dit, avant que nous passions des moments dans la prière avec le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Ne soyons pas des hypocrites pour multiplier les mots, parce que le Seigneur connaît déjà nos besoins. Mais ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur et allez droit au but avec votre cœur. Demandez à Dieu. Même si vous n'arrivez pas à exprimer les mots, Dieu sait lire dans le cœur, il sait lire dans les larmes et il peut répondre à vos besoins. Je me souviens que de ça. Je ne sais pas encore ce qu'il a dit. C'est seulement ça. Et je dis, Seigneur, lorsque je me suis mis à genoux, je ne sais pas, lorsque je fais quand même, c'était vraiment comme si je suis à une autre planète. Je me dis, là, avec qui je vais prier, je fais comme ça, je fais comme ça. Et finalement, un frère, je vais le respecter parce qu'il m'a dit, je lui ai dit, c'est tellement extraordinaire ça, je vais témoigner, je vais pas fermer la bouche. Mais il m'a dit de ne jamais révéler son nom. C'est pourquoi je vais pas révéler son nom et je vais garder l'anonymat. Mais il m'a approché, il m'a dit, je vais prier avec toi. Et on a pris une chaise comme ça et on s'était agenouillés ensemble. Et il m'a dit, commence à prier Marie-Claude. Et j'ai prié, je me souviens, j'ai pas dit grand-chose. Je dis, Seigneur, tu connais mon problème. Tu connais mon problème. Tu sais que dans quelques semaines, j'ai un mariage. Et tu connais le problème que j'ai rencontré en cours de ce mariage-là. Je ne veux pas quelque chose de grand. Et j'ai pas planifié quelque chose de grand parce que j'ai préparé quelque chose et pas au-dessus de mes moyens. Mais au cours de route, malheureusement, il y a eu un problème. Et je dis, Seigneur, tu connais mon problème. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je sais que tu as préparé quelque chose pour moi. Je sais, je suis sûre qu'il y a quelque chose en route pour moi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi. C'est ça ce que j'ai dit. J'ai un problème. Et finalement, j'ai dit amen, parce que j'arrive pas à prier encore plus longtemps. Et mon frère, lui, il a prié. Il a dit, je m'associe à la prière de ma sœur, parce que je ne sais pas quel est son problème, Jésus. Mais je m'associe à sa prière pour te dire aussi que de l'aider dans son problème. Et lorsque lui, il a prié un peu plus longtemps que moi, parce que lui aussi, il m'a dit, prie pour mon fils. Et on a passé des moments comme ça. Et puis quand on se levait, je suis partie pour aller m'asseoir à ma place. Il a attrapé ma main. Il m'a dit, Marie-Claude, assieds-toi là un moment. Et de nature, je suis un petit peu comme ça. J'aime pas trop attraper, toucher les autres. J'aime pas trop ça. Les filles, ça va, mais pour elle, j'étais un petit peu gênée parce que sa femme aussi était là. Et il me dit, assieds-toi à côté de moi. Je dis, tu veux me parler? Il me dit, oui, j'ai hâte de parler. Et là, je me suis assise à côté de lui. Il m'a dit, je ne sais pas quel est ton problème, mais ce que je sais, tu as dit dans ta prière que tu maries ton fils et que tu as un problème. Mais dans ma prière, Jésus m'a dit que ta sœur Marie-Claude a un problème. Et je ne sais pas pourquoi, ce matin, j'ai pris 5000 roupies, j'ai mis dans ma poche. Et ma femme m'a dit, mais pourquoi tu prends tant d'argent pour emmener avec toi? Parce qu'il a sa voiture, lui. Il n'a pas besoin de prendre d'argent. Et il me dit, ma femme m'avait fait la remarque. Pourquoi? Mais Jésus m'a appris là, que ma sœur a un problème, et je ne sais pas quel est ton problème, mais Jésus me dit de t'aider. Et il retire le 5000 roupies, Et il met ça dans ma main discrètement. Discrètement. J'ai commencé à trembler, à pleurer. J'ai peur. Je n'ose même pas le regarder. Je n'osais même pas le regarder. J'ai tremblé de tout mon corps. Et je lui dis, je me lève pour partir. J'avais honte, j'avais peur, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer l'état dans lequel je me trouvais. Et je reviens vers lui, je lui dis, tu sais mon frère, je ne peux pas te rendre cet argent-là, ni dans un mois, ni dans deux mois. Je dois, parce que là, avec le mariage, avec les coûts que Daniel, parce que Daniel, c'était pas prévu pour qu'il se marie, parce qu'il suivait des coûts, et j'ai payé d'argent, beaucoup d'argent pour ce coût-là. Et il devait aller en Australie pour poursuivre ses études. Et j'ai placé de l'argent dans tout ça. Et finalement, il s'est décidé à se marier. La maison était en train de construire et tout, il y avait beaucoup de problèmes là, beaucoup. On construisait la maison, il fallait meubler la maison, il fallait trouver. Et lui, il était encore étudiant, il travaillait bien sûr entre temps, mais c'était pas, il n'avait pas grand chose. Et je lui dis, je l'explique tout ça, je lui dis voilà ma situation, je ne peux pas te promettre que je peux te rendre ça dans quelques mois. Je dois économiser maintenant pour pouvoir te rendre ça dans un an peut-être. Est-ce que tu peux attendre dans un an? Il attrape ma main, il me dit, Marie-Claude, Jésus donne gratuitement. Jésus ne te dit pas de rendre ces choses-là. Jésus m'a dit que ma sœur a besoin d'aide. De t'aider et non de te donner un emploi. Tu n'as pas besoin de me rendre. Jésus te donne. Et je peux vous dire que très souvent, moi, je me suis vantée d'avoir la foi. Et ce jour-là, j'ai su que j'ai pas la foi. Parce que j'ai demandé, et lorsque le Seigneur m'a donné, j'ai pas cru. Même si c'était dans ma main. Je n'ai pas osé regarder. J'ai appelé ça. Je lui ai dit, tu as parlé à ta femme d'abord? Est-ce que ta femme est d'accord? Et il m'a répondu, si Jésus est d'accord, ma femme aussi doit être d'accord. Je lui ai dit, non, mais je ne peux pas accepter. Appelle ta femme. Parce que je n'ai pas pour habitude de prendre de l'argent avec les hommes. Et il m'a insisté. Il m'a dit, non. Je lui ai dit, non, je veux parler à ta femme. Et il a appelé sa femme. Et la femme aussi était vraiment embarrassée. Et elle m'a dit, non, si il a pris la décision de faire ça au nom du Seigneur, bien je suis entièrement d'accord avec lui. Entièrement d'accord avec lui. Et je suis restée un moment encore. Et on est retourné vers midi. C'est terminé à midi. J'ai pas déjeuné, rien là-bas. Depuis le matin, chaque sabbat, je reste toujours comme ça. Le matin, quand je rentre à la maison, que je vais manger. Mais le matin, je vais à l'église, toujours. Pendant 30 ans, je fais ça. Et je peux même pas manger quelque chose, parce que c'était comme ça, depuis tous les temps. Et je mets ça dans mon sac, sans regarder, là, j'ai peur. Et il y avait une sœur à l'église de Rosebel, Colette, et elle m'a vue vraiment pleurer. Elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé, Marie-Claude? Et je lui ai dit, tu sais, quelque chose d'extraordinaire m'est arrivé. Je lui ai raconté brièvement. Elle m'a dit, c'est vrai? C'est vrai? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Je lui ai dit, moi aussi, je crois que c'est pas vrai. Mais dans le bus, on va vérifier ça, pas devant tout le monde ici. Elle m'a dit, mais je vais prendre le même bus avec toi. Parce que le bus qui passe à l'escalier, qui vient à l'escalier, passe aussi à Rosebel. Elle m'a dit, je vais prendre le bus avec toi. Et tu vas tout me raconter en détail dans le bus. Et dans le bus, je m'assois à côté d'elle, je tremblais encore. J'étais là, je dis, je te donne mon sac, vérifie toi-même, parce que moi, j'arrive pas à vérifier. Et elle ouvre mon sac, elle dit, voilà, je vois l'argent, c'est ton argent, ça? Je lui dis, c'est ça même l'argent qu'elle m'a donné. Et je lui dis, compte un peu. compte l'argent et elle commence à compter. Elle pleure elle aussi. Elle commence à compter, elle me dit, Marie-Claude, il y a 5 000 roupies. Elle me dit, il y a 5 000 roupies, Marie-Claude. Et j'attrape sa main, je lui dis, vérifie encore. Elle a compté au moins 2, 3 fois. C'est là que je reconnais que c'est pas par ma foi que le Seigneur m'a exaucé. C'est parce qu'il m'aime. C'est parce qu'il m'aime. J'ai confiance en lui. Mais là, j'ai vu que vrai, c'est vrai. J'ai voulu vérifier. Alors que le Seigneur m'a déjà répondu. Vérifier plusieurs fois. Plusieurs fois. Et elle a commencé elle aussi à trembler, à pleurer dans le bus. Elle m'a dit, le Seigneur a attrapé ma main. Elle m'a dit, Marie-Claude, le Seigneur a fait ça pour toi. Et elle traversait des moments difficiles dans son mariage, dans son couple. Et des moments très très durs. Et à ce moment-là, je dis, Colette, si le Seigneur peut faire des choses extraordinaires comme ça pour moi. Pour elle, c'était pas des problèmes de finances, c'était autre chose. Mais je lui dis, elle allait divorcer. Je lui dis, Colette, le Seigneur va faire des choses extraordinaires pour toi. Renonce à ton divorce. Reconsacre ta vie au Seigneur. Dans quelques semaines, je vais venir prêcher à Rosebel. Viens, on va prier et continuer dans ton couple. Et elle a écouté. Elle a écouté. Elle a passé des moments difficiles. Elle s'est séparée. Elle a divorcé aussi l'année dernière. Mais aujourd'hui, elle est retournée encore dans son foyer. Elle est retournée dans son foyer. Et parce que je sais qu'elle a su que le Seigneur a fait des choses extra. Elle a été témoin. C'était pas par hasard que le Seigneur l'a placée là, à côté de moi, parce qu'elle a été témoin de ce miracle-là. Et je suis venue à la maison, trempée jusqu'aux os. Et tous mes enfants, mes belles-filles, puisque la famille n'était pas encore adventiste, je disais à ma belle-fille, toi tu es baptisée, tu passes tous les sabbats chez moi. Et chez moi, comme ça tu vas apprendre comment vivre le sabbat. Et tous mes belles-filles étaient là, le sabbat, avec mes enfants. Lorsque je suis arrivée, j'ai dit, les enfants, venez, apportez la Bible et cantique, on va louer, célébrer le Seigneur. Les enfants, tout le monde est venu parce qu'ils entendaient ma voix. Il y avait de la joie, je criais, je dis, venez, venez, grand miracle le Seigneur a fait pour moi. Personne ne se doutait de quel miracle. Et finalement, je dis, mettez la Bible cantique là, tout le monde, les petits-enfants, tout ce qui est, tout le monde, tous les gens qui étaient là. Je dis, on va célébrer le Seigneur. Et à ce moment-là, et ma fille m'a regardé, m'a dit, maman, tu es trempée jusqu'aux os, va te changer. Prends quelque chose de chaud ou mange avant, déjeune avant. Et puis on va chanter, on va prier. Je dis non. Quand vous allez savoir quel est le miracle que le Seigneur a accompli, vous aussi vous allez me dire, prions, chantons, célébrez l'Éternel. Et j'ai donné mon sac, je dis, ouvre mon sac. Personne n'a voulu ouvrir mon sac. Et alors, c'est moi qui ai ouvert mon sac. Je retirais les 5 000 roupies. J'ai étalé ça sur la table avec tout mon cœur là. Hein, je retirais ça. 1 000 là-bas, 1 000 ici, 1 000 ici. Je dis, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Et ma belle-fille était, parce qu'elle venait de se convertir. Et dans mission là-bas, c'est les pentecôtistes, et elle voyait beaucoup de miracles. Et elle n'était pas contente de voir l'église chez nous, que nous sommes des gens tranquilles, tranquilles, on ne célèbre pas le Seigneur, on ne loue pas le Seigneur pour ses bienfaits et pour tout ça. Et là-bas, eux, ils font des choses pour louer le Seigneur, d'avoir guéri un tel et un tel. Chez nous, il n'y a pas de miracle, elle me dit. Elle n'était pas contente. Et elle me dit, il manque vraiment de choses chez nous. Et là, lorsqu'elle a vu ça, elle a cru vraiment. Elle a dit, voilà. Et on a commencé à prier, à chanter, à louer le Seigneur. À louer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Et le mariage était quelque chose d'extraordinaire. Tout ça, ce sont des personnes qui ont été invitées au mariage. Et le repas qu'on a payé avec l'argent que le Seigneur nous a donné est resté par... On a pu distribuer partout. Parce que je ne pouvais pas inviter tout le monde. Mais on a distribué quand on est retourné, parce que la salle de noces c'était à Kirby. Lorsqu'on est retourné, il y avait plusieurs bols de nourriture, beaucoup de gros decks remplis. On a pu partager. On a même envoyé là-bas où le papa faisait la fête avec ses amis, et on a envoyé là-bas cette nourriture-là. Et les catholiques qui étaient là pour le mariage, certains, c'était la première fois qu'ils mettaient les pieds dans l'église adventiste, étaient émerveillés de voir que nous, les adventistes, on peut aussi célébrer le Seigneur, même s'il n'y a pas d'alcool, même s'il n'y a pas la danse. Le mariage a pu célébrer avec tant de joie, tant de joie. Et c'était quelque chose d'extraordinaire qu'on a vécu. Et sans cesse, je loue le Seigneur pour ses merveilles. Sans cesse, le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Des portes se sont ouvertes. L'ennemi a travaillé aussi, a mis des obstacles, mais le Seigneur a toujours ouvert les portes. Toujours. Les prêtres catholiques sont venus ici, et chez ma voisine à côté, pour lui dire, tu es Miss Catéchiste, et tu enseignes les enfants de la catéchiste à l'église, à l'école, et tu marches avec les adventistes. Tu apportes les enfants catéchistes là-bas pour faire des aventuriers. Et les prêtres sont venus vers elle. Elle a eu beaucoup de problèmes, elle aussi. On a amené les prêtres, les responsables de l'église pour lui parler. Et elle a dit, mais je suis Jésus. Je parle de Jésus. Et Dieu a servi de cette femme comme un instrument pour nous amener tous les enfants que vous voyez aussi à l'église. Et les parents ne sont pas à l'église, mais ce sont des enfants qui font des premières communions, qui font des catéchismes, et ces enfants-là viennent chez nous. Et ma belle-fille est responsable du ministère des enfants, et elle encadre les enfants, et l'autre belle-fille est responsable des aventuriers, l'autre est responsable de les trois belles-filles, un ministère des enfants, un aventurier, l'autre belle-fille est responsable des explorateurs. Alors tout le monde encadre les jeunes et les enfants du quartier. Du coup, même s'ils ne sont pas adventistes, et on les enseigne à marcher avec Jésus, à connaître Jésus. Voilà en gros mon histoire de ce que Jésus a accompli pour moi dans ma vie, de ma vie. Je le loue et je le bénis, et j'espère que ceux qui vont m'écouter vont eux aussi faire des expériences encore plus grandes avec le Seigneur. Encore plus grandes. Le Seigneur ne cesse de faire des miracles. Même pour mon mari que vous voyez là, hein, le Seigneur a fait des grandes choses. Non seulement pour lui, mais je vis chaque jour dans ces miracles-là. Je le vis chaque jour. Alors qu'il était là comme mort, je dis au Seigneur, je ne sais pas si dans quelques instants je vais être devant un cercueil, mais quand tu es à côté de moi, je n'ai peur de rien. Je sais que tu es avec moi. S'il te plaît, Jésus, manifeste-toi en moi. Quand tu es là, je peux supporter toute chose. Et là, dans l'hôpital, devant ce cadavre qui était devant moi, j'ai senti dans mon cœur la joie. Jésus s'est manifesté. Il m'a dit, je suis là avec toi. Et quand j'ai reçu ça, je dis, Seigneur, si tu es avec moi, je peux même me mettre debout devant le cercueil s'il le faut. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je suis prête à aller là où tu m'emmènes. Et voilà, pas à pas, aujourd'hui, il peut marcher. Pas bien, mais il marche. Et je loue le Seigneur pour ça. Et il était là, j'ai dû mettre quelque chose, un tube, lui faire à boire. Lui faire à boire. Le médecin m'a dit, quand il a vu beaucoup de pasteurs venir à l'hôpital pour prier pour lui, parce qu'il restait un mois alité. Et quand il m'a dit, nous, on a fait tout ce qu'on a pu médicalement. On a tout fait à l'hôpital. Maintenant, allez dire à votre Jésus, quand il va décider. Il a dit ça un petit peu, pas méchamment, mais parce qu'il me voyait prier tous les jours. Beaucoup de pasteurs, des membres d'église qui venaient, qui priaient. Et il a dit, allez dire à votre Jésus, combien de temps il va prendre, lui, pour le faire marcher. Parce que pour eux, ce n'était pas quelque chose de possible. Mais après un mois, il est revenu à la maison. Et après 2 mois, 2 mois, m'attend Alain. Après 2 mois, Il a commencé à se lever, à s'asseoir. Et on a dû mettre quelque chose à hier. Et puis, tout doucement, on a enlevé. Il a pu s'asseoir par lui-même. Et un jour, je lui ai dit, et mon petit-fils, là, il a appris, il a 4 ans. C'est pour lui qu'on a acheté le lit. Il aura 5 ans, là, mardi. Et alors, il a entendu à l'église quelqu'un qui racontait l'histoire où Pierre dit, je n'ai rien à t'offrir, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Quand c'est retourné de l'église, il dit à son grand-père, grand-pa, je n'ai rien à te donner, mais au nom de Jésus, grand-pa, lève-toi et marche. Et tous les jours, il continue à le dire, hein, il continue à le dire. Et tous les jours, il vient, il le dit. Lève-toi et marche, grand-pa. Lève-toi et marche. Et finalement, il a commencé à se lever, il a commencé à faire un pas, il a commencé à marcher. Et aujourd'hui, il peut marcher jusqu'à même sur le pont où on est passé là avec Daniel là, la dernière fois. Et il peut aller jusque là et retourner, bien sûr accompagné ensemble, mais il peut le faire. Et je loue le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour ses merveilles. Que le Seigneur soit glorifié et que ceux qui écoutent mettent sa confiance en Jésus. Quand on a Jésus, et on a tout. Il peut tout. Il peut tout. Même s'il ne fait pas ce qu'on désire, mais quand il est avec nous, il nous conduit toujours. Et il fait autre chose qui nous remplisse toujours de joie et de paix.
C'est merveilleux.
Et je dis amen pour tout ce qu'il m'a permis de vivre parmi tant d'autres. Comme je vous ai dit hier, s'il fallait raconter dans tous les détails, on peut écrire plusieurs livres de ce que Jésus a fait pour moi.
Peut-être une fois, on va revenir, je vais donner beaucoup plus d'expérience.
Ouais. Et là, je dis merci au Seigneur parce que c'était pas. Beaucoup de fois, il y a des pasteurs qui m'ont dit, Marie-Claude, on peut faire pour les bulletins missionnaires et tout ça. Et j'ai dit non, je ne vais pas raconter. Et c'est pourquoi j'ai jamais écrit quelque chose pour lire ou pour, hein, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est dans ma vie et c'est resté. Je n'oublie jamais ce que Dieu a fait pour moi. Même s'il y a 6 ans de cela, même s'il y a 30 ans de cela, je me rappelle comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Et alors je peux le dire avec mon cœur ce que le Seigneur a fait pour moi. Et c'est pour ça que jamais je vais abandonner mon Dieu. Jamais.
On est tous bénis avec ces histoires. C'est merveilleux ça. Et c'est plus que seulement des expériences et les réponses. Ouais. C'est presque, de mon avis, un style de vie basé dans la prière. Ouais. Même quand vous faisiez le travail missionnaire.
Oui.
Vous priez de 9h à 10h et tous les gens venaient de cette base que tu as pu faire beaucoup de choses.
Et comment j'ai pu gagner les cœurs de ces gens-là ici? Comment l'évangile a pu pénétrer chez les personnes? Parce qu'ils ne m'aimaient pas en tant qu'adventiste. Quand il y a une mortalité, je vais là-bas les rendre visite. Et je ne pouvais pas prier parce qu'eux, ils ne vont pas accepter ça. Mais je vais là-bas pour les aider. Et les aider pour donner un bain aux morts parce qu'ils ont peur de ça. Je les aide. Et je faisais la couture, je fais les robes pour la personne décédée. Je fais des robes, je vais l'habiller et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai pu entrer en contact avec les gens. Et aujourd'hui, et je suis bien bénie ici dans ce quartier. Tous les gens nous aiment et nous respectent. Et quand ils ont un problème, ils me disent, viens. Ils n'ont pas peur, même minuit, 1h du matin, ils viennent frapper à la fenêtre. Même les hindous, il y a un problème chez nous. Et, ma femme qui est possédée, qui fait du désordre dans la maison, s'il vous plaît, viens, prie pour nous. Alors je pars avec ma Bible.
Quand vous faisiez les études bibliques, est-ce que tu suis les leçons? Est-ce que tu fais?
Non, pas toujours. Parce que c'est très souvent ici, dans ce quartier, je vais chez des gens qui ne savent pas lire. Et qui ne savent pas lire. Alors je prends toujours les miracles que Jésus a accomplis. Tout ce que j'ai fait. Je prie toujours, moi. Je prie toujours. Je dis, Seigneur, quel est le besoin de cette personne-là? Et tu connais le besoin de cette personne. Eh bien, voilà. C'est toi qui va me conduire. Comment aborder la parole de Dieu et comment présenter cette parole, et c'est toi qui vas me guider. Et quand je fais des conférences ici aussi, puisque je suis avec les gens qui ne savent pas lire la plupart, et je prends ma Bible, et je dis Seigneur, bien sûr, je ne vais pas prendre ma Bible tous les jours et attendre que les choses viennent comme ça, mais j'ai déjà prié, j'ai déjà demandé sur quoi je vais parler, Seigneur. Et là, je vais parler, par exemple, quand il y a la Pâque. Je profite en ce moment-là pour montrer la part de véritable de la Bible. Alors je dis, Seigneur, c'est toi qui vas me guider, me diriger et me donner les paroles pour toucher les cœurs de ces personnes-là pour qu'ils arrivent à comprendre. Pour qu'ils arrivent à comprendre. Alors là, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que j'ai fait. C'est ma relation, c'est ma façon à moi. Et je peux vous dire une chose. Et j'ai pas de diplôme. J'ai pas fréquenté des grandes écoles et tout ce que j'ai appris c'est au pied du Seigneur. Et je vais vous confier quelque chose. Et je parle créole chez moi tous les jours. Mais quand il faut parler, je vais prêcher partout. Il y a des églises qu'il faut parler en français. Alors je dis Seigneur, c'est toi qui donnes le don des langues. S'il faut que le message passe en français là-bas, tu vas me donner parce que moi j'ai pas. Je vais avoir peur, je vais dire attention, faute voilà. Alors je prie. Alors pour vous, je vais vous confier quelque chose. C'est sur mon cœur, je vais vous le dire. Comme pour vous, je dis, je vais présider seulement. Et pendant la semaine, je vais présider seulement. Et je n'ai pas besoin de demander l'Esprit Saint pour présider. Parce que c'est pas quelque chose de difficile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai senti. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'étais pas bien à l'aise. Vous voyez, je parle, mais c'était pas comme ça. J'avais un petit peu peur. Est-ce que je fais bien là? Est-ce que je dis quelque chose qui est bien là? Est-ce que je ne fais pas des erreurs là? Arrivé un moment, je vous dis, moi j'arrête là et je vous laisse la place. Le Seigneur m'a montré que c'est parce que tu n'as pas demandé mon aide. Tu as cru bon de faire les choses pour toi-même parce que c'est quelque chose de facile, que sans moi, tu ne peux rien faire. Alors, à partir de ce moment où j'ai compris, je dis, Michel, tu sais, il y a un problème là. Ce n'est pas la façon dont j'ai l'habitude de présenter les choses, moi. Je n'étais pas dans mon élément là. Je dis, je n'ai pas assez prié, je n'ai pas demandé à Dieu vraiment, le Seigneur, sers-toi de moi comme ton instrument. Et j'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Et ce sabbat-là, je sentis que c'était pas moi, mais c'est l'Esprit Saint. Amen. Qui a présidé tout le programme. Et je sentis que c'était pas moi, que c'était l'Esprit Saint qui était là. Et c'est ça mon expérience. Quand c'est moi, le Seigneur va me faire savoir, là c'était toi, tu t'es exalté toi-même là. Mais quand c'est pour le Seigneur, quand c'est l'Esprit Saint qui m'a... Quelquefois, je ne suis pas satisfaite aussi, comme je vous ai montré ma prédication de sabbat dernier. Et j'ai bien préparé pendant et puis en arrivant là-bas, le Seigneur me dit non, tu vas apprécier autre chose là. Tu vas apprécier autre chose.
Ça m'arrive. Ouais. Souvent. Ouais. Aussi.
Ouais. Tu vas apprécier autre chose. Alors j'obéis parce que je sais que c'est le Seigneur qui me conduit. Absolument. Je loue, je bénis le Seigneur et je m'arrête là. Je dis gloire à Dieu pour toutes ces merveilles.
Dans mon expérience, souvent Dieu me donne une petite phrase. Oui. Et c'est de cette petite phrase, oui. Comme il me donne, comme oui. Ça va matin aux États-Unis, oui. Il m'a donné, vous n'avez pas mangé oui. Comme ça avant. Où est-ce que c'est l'histoire? Après, j'ai parlé avec Edwin Vitry, j'ai appris cette histoire de Théoline qui a jeté sa Bible dans la rivière. J'ai dit, ah, ça c'est pourquoi? Ça m'a beaucoup encouragé oui. Parce que oui. C'était l'histoire où Josué a dit, sanctifiez-vous. Aujourd'hui, parce que demain, Dieu va faire
j'ai beaucoup aimé ça hier.
Oui, oui, oui. Pour moi, c'est vraiment le désir et la promesse, ouais. la promesse de Dieu pour l'avenir ici, ouais. Si les gens se ouais. Sanctifient.
Ouais.
Alors, ça m'a beaucoup encouragé. Et moi, en voyageant, je vois dans toutes les églises, il faut dire, vous parlez juste maintenant du Saint-Esprit qui présidait. Mais pour moi, j'ai dit à Rose ce matin, souvent les gens me disent, tu sais, ton français c'est très bien, on comprend ouais. Tout. Ça, mes mères, ouais. Je ne comprends pas. Parce que pendant que je le fais, J'ai le sens, tu fais beaucoup de fautes, tu fais beaucoup de fautes, tu fais beaucoup de fautes. Mais quand même, j'entends jamais ça. Oui. Peut-être j'ai fait beaucoup de fautes, oui. Mais je sais qu'au moins les gens le comprennent complètement.
Oui, oui.
Alors, de moi, je ne peux pas l'expliquer, oui. Sauf oui. Le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, exactement. Et là, moi aussi, je dis, je fais beaucoup de fautes, beaucoup de fautes, et beaucoup de fautes. Et finalement, les gens me disent, et vous avez vraiment tenu un message extraordinaire. Alors j'étais contente, je dis gloire à Dieu, parce que le Seigneur m'a confié ce message-là pour moi et pour vous.
Moi
et pour vous. Et sabbat dernier, j'étais vraiment émerveillée de voir cette dame venir à moi. Et elle m'a dit, et ce message-là m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Elle avait les larmes aux yeux. Elle venait de perdre sa maman et elle est aussi avec beaucoup de problèmes avec ses enfants et son couple aussi. Et elle me dit, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Elle était en crise aussi avec l'église. Elle m'a dit, maintenant je comprends pourquoi Dieu m'a conduit là ce matin. Maintenant je vais plus quitter l'église. Je vais plus quitter l'église. Et mon message était, le Seigneur, Éphésiens 2, le verset 10. Et le Seigneur a préparé des œuvres et des œuvres en avance pour nous, pour que nous les pratiquions. Je ne sais pas si je suis sûre que c'est ça, pour que nous les pratiquions. Des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Alors, on a pu voir un peu avec l'Église, hein, puisque Dieu nous a préparé, hein, des œuvres bonnes pour que nous les pratiquions. Quelles sont ces œuvres bonnes que Dieu a préparé d'avance pour que nous les pratiquions? Même si l'Église ne nous accorde pas des responsabilités, mais le Seigneur a préparé des œuvres bonnes pour nous. Si je ne suis pas ancien, si je ne suis pas responsable de tel ou tel département, mais c'était ça mon message sabbat dernier à l'Église de Rosebel. Puisqu'il a préparé des œuvres bonnes pour que nous les pratiquions. Ça veut dire qu'il y a des œuvres bonnes pour moi. Alors, il faut découvrir quelles sont ces œuvres que Dieu a préparées pour moi. Et avec l'aide de Dieu, nous allons accomplir chacun dans notre demeure et là où Dieu nous a placés, ces œuvres bonnes, afin que nous les pratiquions.
C'est merveilleux. Et merci pour ces moments bénis. Et ça se peut qu'il y a pas avoir beaucoup de gens qui vont écouter et entendre ces histoires. C'est vraiment une grande bénédiction pour moi. Ça m'encourage beaucoup.
Moi aussi.
Ouais.
Parce que moi, dans mes rêves, je n'aurais pas imaginé qu'un jour, et tous ces témoignages-là, il y a sûrement quelqu'un, quelque part, il y a sûrement quelqu'un que le Seigneur voulait encourager.
Ouais.
Et en entendant cela, ouais. Parce que très souvent, quelquefois, et moi-même, je refuse de témoigner quelquefois, mais quand on a fêté le 100 ans par l'assemblée à Maïbo, le pasteur est venu vers moi et me dit, Marie-Claude, on ne va pas faire le bulletin d'émission, mais on voudrait que toi, tu fais tes propres bulletins là.
Ouais.
Je dis, non, je ne peux pas. Et il me dit, non, et tu as un bulletin chez toi là. Par rapport à ton mari, et tu as un bulletin là, d'émission que tu peux présenter à l'assemblée. Alors je priais et j'ai accepté. Et dans l'assemblée, il y avait une personne qui a fait un accident qui est paralysée. Qui est paralysée. Elle n'était pas là parce qu'elle ne pouvait pas venir, mais les parents étaient là, les sœurs étaient là. Ils sont venus vers moi après, ils m'ont dit, c'est vrai, ton mari peut marcher maintenant? Et je dis, oui, le Seigneur a fait ces choses-là. Alors, on m'a invité un jour à venir pour prier là-bas. Et pour prier là-bas, je n'ai pas encore eu le temps d'aller là-bas. On m'a invité pour prier. Mais ça a encouragé cette famille-là à continuer. Mais j'ai appris que même dans une fauteuil roulante, elle a pris courage et elle est venue à l'église. J'ai appris par un frère qu'elle est partie à l'église, même dans une fauteuil roulante. Après 2 ans, elle est sortie de la maison. Elle est allée à l'église. Et je loue Dieu par rapport à ce que, dirigée par l'Esprit, cette famille-là a pu entendre ce que Dieu a fait dans la vie d'un autre et l'encourager aussi à faire confiance à Dieu. Et j'espère aussi que ce sera la même chose.
Oui, je suis certain.
Et que beaucoup d'autres personnes qui vivent dans des quartiers comme nous ici, et de pouvoir travailler avec le Seigneur, et continuer à faire des choses extraordinaires pour la gloire de Dieu. Oui. Peut-être que je ne vais pas rencontrer ces personnes-là, mais au ciel,
au ciel,
on a beaucoup de choses à se dire. Et, oui. Et, hein.